Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. C'est aujourd'hui la journée internationale pour l'élimination des violences sexuelles en temps de conflit. Le viol et les mutilations ne sont pas nouveaux, évidemment, loin de là, mais ils sont devenus depuis les années 90 de véritables armes de guerre dans les conflits armés, qu'ils soient civils ou internationaux. La Bosnie, la Syrie, la RDC viennent immédiatement à l'esprit quand on évoque ce sujet qui fait l'objet d'une prise de conscience puisque le dernier prix Nobel de la paix a été attribué à des personnalités. Nadia Mourad et Denis Mukwege qui se battent contre ce fléau. Mais le chemin est encore long. Comment lutter contre les violences sexuelles en temps de conflit? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Leïla Mignano, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, co-auteur du livre « Impunité zéro » aux éditions Autrement et « Guerre invisible », révélation sur les violences sexuelles dans l'armée française. C'est une co-édition Les Arènes et Cosette. Et Céline Bardet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes juriste, spécialisée dans les questions de crimes de guerre et fondatrice de l'ONG « We are not weapons of war ». En français, « Nous ne sommes pas des armes de guerre ». Cela fait 10 ans que les Nations Unies ont reçu le mandat de s'occuper de ce problème. Je le disais, le phénomène n'est pas nouveau, mais tout cela est en fait très longtemps resté tabou. On pourra peut-être revenir sur certains épisodes de la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Mais pourquoi cette prise de conscience relativement récente, Céline Bardet?
Pourquoi la prise de conscience relativement récente? Ah, franchement, j'ai pas la réponse. Enfin, je pense qu'il y a une prise de conscience parce que ça fait très longtemps que beaucoup de gens dans la société civile, les organisations, font un lobby pour ça, pour qu'on en parle. Donc je pense que c'est simplement la société qui avance, en fait, parce que c'est valable pour les violences sexuelles dans les conflits, comme c'est valable sur la question des violences sexuelles de manière générale.
Les violences sexuelles, évidemment, qui, même en cas de hors conflit, sont évidemment à bannir. Est-ce que il y a, à votre connaissance, Leïla Mignano, depuis plusieurs années, une accélération du phénomène, quelque chose qui, est-ce que ça s'élargit, est-ce que ça est un phénomène qui grandit?
Le viol de guerre?
Oui.
Non, je pense pas. Je pense que vous avez cité les années 90. C'est la première fois, effectivement, qu'il y a des décisions, que ces crimes sont portés en justice. En revanche, c'est des questions qui existent depuis plus longtemps que ça. Vous parliez de la Seconde Guerre mondiale. On a parlé évidemment des armées russes en Allemagne, de l'armée américaine au moment du débarquement, et aussi du CEF. C'est-à-dire du corps expéditionnaire français qui a commis des viols de masse dans le Latium en Italie. Des viols sur lesquels il n'y a aucun doute et pour lesquels la France ne s'est jamais excusée. Donc du coup, ça date pas des années 90, ça date même d'avant la Seconde Guerre mondiale. Mais effectivement, je pense aussi avec le mouvement MeToo, peut-être ça a permis de... En plus du travail effectivement fait par la société civile, ça a permis de mettre sur le devant de la scène aussi ces questions qui sont souvent considérées comme secondaires.
Cette prise de conscience, Céline Bardet, est-ce que c'est nécessaire pour les victimes? Déjà, rien que le fait que ce ne soit plus tabou.
Non, mais je pense, oui, bien sûr que c'est nécessaire. Et je pense que la question des violences sexuelles, encore une fois, en général, elle passe par là. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut que le sujet y sorte et qu'on puisse en parler de la même manière de la même manière qu'on parle d'autre chose. Et je pense que là, c'est tout l'enjeu qui est lié à la singularité et à la question des violences sexuelles en général. Après, moi, je voulais revenir 2 secondes sur la question de est-ce que le phénomène est exponentiel ou pas. Ce qu'on sait, c'est que les violences sexuelles, elles sont utilisées dans tous les conflits, sauf le conflit israélo-palestinien, et qu'après, il y a la question de faire la différence entre les violences sexuelles dans la guerre et à quel moment ces violences sexuelles deviennent une arme de guerre. Et ça, c'est tout un débat, parce qu'il y a une espèce de confusion sur beaucoup de choses. Mais je voulais parler de la question du phénomène, parce qu'il n'y a pas d'études, il n'y a aucun chiffre. Il y a des chiffres qui sortent, qui n'ont aucun vraiment, qui ne sont pas nécessairement vérifiés parce qu'il n'y a jamais eu d'études sur la question. Donc nous, on va lancer la première étude mondiale sur cette question et ça reflète aussi, entre guillemets, le peu d'intérêt sur ça. Parce qu'il n'y a pas d'études, alors que des études, on en a sur énormément de choses.
Alors, je vais rebondir sur ce que vous disiez à l'instant. Quand on parle de violences sexuelles, est-ce qu'on fait une différence, et vous êtes juriste, sur le plan judiciaire, entre les viols qui peuvent se produire en pays conquis, et je pense évidemment à la Seconde Guerre mondiale, ce dont on vient de parler, avec l'armée rouge en Allemagne, les troupes américaines en Normandie, les troupes françaises en Italie, une sorte de comportement de vainqueur tout puissant, et les violences qui sont conçues pour asservir détruire une société entière ou même la purifier, comme ce qui a pu se produire en Bosnie. Est-ce que juridiquement, judiciairement, ce sont deux choses différentes ou
Non, juridiquement, judiciairement, ce sont pas deux choses différentes, parce qu'en fait, ce qui différencie les choses, c'est ça où souvent c'est le viol, c'est un crime, d'accord, et en fait, ça devient un élément constitutif de crime international. Donc, ça devient un élément constitutif de crime de guerre. Donc là, en l'occurrence, sur les deux situations dont on parle, je pense que c'est qualificatif de crime de guerre. Après, quand on parle de viol comme arme de guerre, c'est-à-dire que la question, c'est elle est de savoir, est-ce qu'on parle de violence sexuelle dans la guerre parce qu'à un moment, il y a un comportement de vainqueur, ou à un moment, il y a un contexte qui fait que c'est chaotique et donc on va être violent, et y compris utiliser la violence sexuelle. Et pour moi, il y a une différence entre quand le viol devient ce qu'on appelle pour moi une arme de guerre, c'est-à-dire qu'il est pensé en haut lieu, en amont, et il est planifié.
Il fait partie du plan de bataille.
Il fait partie du plan de bataille. Et c'est le cas aujourd'hui aussi dans le cadre d'un outil terroriste qu'on en fait. On l'a vu avec Boko Haram et Daesh. Donc là, ça devient vraiment une arme de purification ethnique, comme les camps de viol en Bosnie. Et voilà. Mais tout ça, ça fait partie des mêmes choses. À l'intérieur, il y a des choses à distinguer. Mais je redis encore une fois, la question, elle n'est pas de dire il y a quelque chose qui est plus grave que ou moins grave que l'autre.
Non,
la question, c'est de comprendre.
Oui,
mais en droit, c'est pas difficile, en fait. C'est le viol devient un élément constitutif de crime international quand il est commis dans le cadre d'un conflit.
Leïla Mignano, vous avez quelque chose à rajouter là-dessus ou alors je peux passer à la question suivante, parce qu'il y a plusieurs aspects dans ce dossier. D'abord, la sanction des violences sexuelles, la peur du gendarme. Est-ce qu'il y a un gendarme ? Est-ce qu'il est efficace ? On en est où ?
Alors, il y a différents potentiels types de gendarmes. Après, est-ce qu'effectivement il y a des sanctions ? C'est deux types de questions différentes. Mmh. Effectivement, on peut regretter qu'il n'y ait pas plus de sanctions, que ce soit de la part de la Cour pénale internationale, que ce soit de la part des États eux-mêmes, parce que c'est central, la question des sanctions de la part des États envers leurs propres troupes qui agressent. Et sur la... Enfin, je peux parler de la France en particulier, mais...
Allez-y.
Voilà, je pense que
la parole est libre.
Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire dans notre dispositif militaire à nous pour améliorer la situation. Des choses qui peuvent être de l'ordre du symbolique, comme l'inscription des violences sexuelles dans le code du soldat, quelque chose qui avait été promis par Jean-Yves Le Drian en 2014, et qui n'est toujours pas fait. C'est de l'ordre du symbolique, mais ça met les choses au point. Les excuses sur les viols commis en Italie. Aujourd'hui, il y a encore des survivants et des survivantes en Italie qui attendent ça. Il y a des personnes qui sont aujourd'hui âgées de 80 ans, 90 ans, qui attendent ces excuses-là, qui ne sont pas arrivées. Évidemment, il y a des choses qui coûtent plus d'argent, qui sont la formation des militaires avant de partir en opération extérieure. Donc aujourd'hui, ils ont un briefing sanitaire, on leur parle des maladies vénériennes, mais on leur parle pas...
Et j'invite d'ailleurs, à propos de ces violences sexuelles en Italie, nos auditeurs à aller sur internet et rechercher cet excellent papier de Libération qui est sorti il y a quelques jours, qui était extrêmement complet.
J'ajoute qu'il y a un film qui est diffusé ce soir sur la chaîne Toute l'Histoire de Daniel Allais, qui s'appelle Viol de guerre, 70 ans d'histoire. Je ne dis pas ça parce que je suis dedans avec Denis Mukwege, mais c'est intéressant parce que effectivement on voit ce qu'on disait au début, c'est que oui, le viol de guerre, il n'est pas nouveau et qu'il a toujours existé et qu'il y a toutes ces histoires là, et l'Italie notamment, qui est extrêmement fort, quoi. Et qu'après, la question, c'est la question des réparations. Excuse, je sais pas si un mot, mais en tout cas, ce que les survivants, parce que dire, déjà commencer par reconnaître que c'est arrivé, c'est une reconnaissance, et c'est une forme déjà première de réparation. On a la même situation pour les femmes de confort en Corée, avec la situation du Japon, où jamais rien n'a été reconnu, si ce n'est très très récemment. Et ça, c'est très important pour les survivants.
Alors, une résolution a été votée récemment aux Nations Unies, c'était fin avril. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, Leïla Mignano ? Elle va moins loin que ce qui était prévu au départ, il y avait des regrets. Je me suis rendu compte de ça quand j'ai préparé cette émission.
Effectivement, il y a eu un recul qui a été d'ailleurs très, très largement noté par la presse, mais je parle sous le contrôle de Madame Bardet. Hein. C'est sur la question de la prise en charge des avortements des survivantes du viol, et par ailleurs aussi de la question des mutilations, donc il y a un vrai recul par rapport à ce qui existait avant. Donc ça, il faut le dire, ce recul est scandaleux. Après, si... vous me dites si je me trompe, mais je pense qu'il y a des choses aussi...
Non, il y a plein de choses positives. On a co-organisé avec Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix, un forum au Luxembourg qui s'appelle Stand Speak Rise Up, sur lequel on avait travaillé là-dessus. Et là, on a fait venir, en fait, dans la résolution, le fait de reconnaître, d'y ajouter la question des hommes et des jeunes garçons, parce que le viol de guerre n'est pas qu'une question de femmes, et ça c'est important de le dire, et aussi la reconnaissance des enfants nés du viol. Donc il y a beaucoup de choses, il y a 36 points qui sont importants. Après, ce qu'on a vu, c'est que là, ce que je trouve plus inquiétant de manière générale, c'est ce qu'on a vu, c'est l'influence et le pouvoir en fait de l'administration américaine actuelle, donc celle de Trump, qui fait une sorte de retour en arrière et qui a donc demandé à ce que ne soient pas inscrits les droits reproductifs et sexuels, parce que pour eux c'est assimilable à l'avortement. Donc ça c'est très inquiétant, et moi j'ai eu cette position de dire je crois qu'on n'aurait pas dû voter cette résolution dans ce cadre là mais ça c'est un autre sujet. Mais après, les choses elles avancent quand même.
Alors, autre aspect, et vous l'avez évoqué à l'instant, Céline Bardet, c'est la réparation pour les victimes, même si il y a les jeunes garçons, les enfants, et c'est quand même surtout des femmes dans leur immense majorité. Comment est-ce qu'elles sont prises en charge psychologiquement, médicalement, financièrement? Est-ce qu'il y a des organisations qui s'occupent de ça, Leila Mignano?
Bien sûr. Après, selon les pays, selon l'accessibilité des zones, selon le système judiciaire, sanitaire et social du pays, évidemment, il y a de tout. Aujourd'hui, la prise en charge des victimes qui se trouvent sur le territoire syrien, par exemple, ou sur le territoire libyen, évidemment, c'est une autre limonade, quoi. Mmh. Et moi, j'attends de voir les premiers accès qu'ils vont avoir les organisations sur le conflit yéménite, qui, je pense, vont être catastrophiques. Je veux pas non plus me faire le l'oiseau de mauvais augure, mais je pense que là aussi, aujourd'hui, ces zones-là sont inaccessibles, donc on n'a pas d'état des lieux, etc., et encore moins de visibilité sur la prise en charge, mais effectivement, c'est inquiétant.
Est-ce qu'il y a des fonds, des organisations internationales? On sait que l'ONU a un commissaire spécifique, c'est chargé de...
Non, il y a une représentante spéciale. D'abord, il y a une représentante spéciale des violences sexuelles au sein de l'ONU, qui est aujourd'hui Pramila Patel, mais qui a un bureau qui travaille à la visibilité, qui n'a pas de fonds à proprement parler. Après, il y a énormément de programmes. Je ne peux pas dire, il y a des programmes, il y en a plein. La question, c'est que sur le viol de guerre, d'abord, il faut des réponses holistiques. Donc, il faut pouvoir prendre en charge les gens d'un point de vue médical, d'un point de vue psychosocial, d'un point de vue judiciaire aussi, etc. La problématique qui est très bien expliquée là, c'est que on parle de conflits et qu'on est sur des contextes qui sont souvent, en tout cas pour certains, inaccessibles. Et nous, on a développé un outil qui s'appelle le backup et qui est en fait un outil technologique, donc qui va permettre à des gens de se signaler eux-mêmes, et on crée des réseaux locaux dans les régions pour pouvoir venir auprès d'elles le plus rapidement possible. Mais la problématique, c'est ça. Après, l'aide, le problème, c'est qu'elle n'est pas centralisée et qu'en fait, il y a beaucoup d'argent qui va à l'ONU pour créer des postes de spécial, je sais pas quoi, conseiller spécial sur les violences sexuelles, pour écrire des rapports et des rapports et des rapports. Donc voilà, donc en fait ça ne sert à rien. Et ça c'est la problématique, parce qu'aujourd'hui on est en train de beaucoup de parler aussi des réparations. On met au centre les survivants, et ça c'est une politique qui a été beaucoup menée par Denis Mukwege pour le coup. Mais en même temps, on rentre dans un truc presque absurde, parce que on demande aux survivants en fait d'avoir le courage de parler, on n'arrête pas de leur demander ça. Donc je pense que c'est à nous après d'avoir le courage de transformer cette parole en preuve, et c'est toute la problématique, parce qu'il y a quand même encore une impunité judiciaire, et les survivants, ceux qui demandent constamment, c'est la justice, la reconnaissance, les réparations, la justice.
Et il n'y a pas de justice internationale sur le sujet, ou pratiquement pas, c'est ce que vous êtes
en train de dire. Non, il y en a eu au niveau du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, le Rwanda, ils ont rendu des décisions. Le Rwanda a jugé que le viol était un élément constitutif de génocide, donc il y a des choses, mais il n'y en a pas assez. La question des yézidis, elle se pose, la question du conflit en Syrie de manière générale, et puis après, il y a l'accompagnement au niveau national, parce qu'il ne faut pas oublier aussi, souvent on entend dire il n'y a pas de poursuite. Si, en République démocratique du Congo, par exemple, en ce moment, il y a des poursuites par les tribunaux militaires, donc il y a des choses qui se passent, mais il faut les bons experts pour former les gens et pour accompagner ces démarches-là au niveau national comme au niveau international. Pour l'instant, la Cour pénale internationale, elle a rendu aucune décision sur les violences sexuelles. Donc ça, c'est quand même inquiétant.
Pour l'instant, il n'y a rien du point de vue des jugements sur la justice internationale.
Au niveau de la Cour pénale internationale, non.
La question, et j'aimerais y revenir, des enfants nés de viol, question très délicate, les mères violées n'ont pas forcément envie de les garder, ou alors c'est le contraire et personne n'a en jugé. Est-ce qu'il y a des prises en charge spécifiques pour ces enfants-là, Leila Mignano?
C'est une bonne question. Je pense que peut-être tu...
Oui, il y en a. Oui, bien sûr qu'il y en a.
Oui.
Oui, oui, il y en a, mais il y en a pas assez. Il y a besoin de les développer, mais oui, il y en a. Nous, on a un programme qui s'appelle Foster Survivor où on prend en charge des enfants nés du viol. Donc, c'est-à-dire, on les accompagne dans leur éducation, etc. Encore une fois, Denis Mukwege à Pandy, il a des écoles d'accompagnement, mais il y en a pas assez. Et ce qu'il faut surtout, c'est d'accompagner les mères. Parce que celles qui gardent leurs enfants, il y en a aussi. C'est à quel moment on explique à l'enfant son histoire, qu'il est issu du viol, du fruit, entre guillemets, de l'ennemi, etc. Comment on fait ça? Et elles ont besoin de cet accompagnement-là. Donc ça manque encore beaucoup. C'est pour ça que c'est important que ça ait été reconnu dans la résolution, en espérant que derrière, il y ait des fonds pour financer ce type de programme, qui, à mon avis, sont ultra urgents et nécessaires.
Alors, Denis Mukwege, vous en avez parlé, c'est le prix Nobel de la paix de République démocratique du Congo, l'homme qui répare les femmes. Il parle, lui, de prévention. Est-ce qu'on peut vraiment prévenir des violences sexuelles, à votre avis, Leila Mignano?
Bien sûr, je pense que la clé, c'est la formation des militaires. Enfin, il faut former les militaires.
Ouais, sensibiliser.
Il faut former. Ouais. Il y a des très bons professionnels aujourd'hui. Il faut les solliciter. Il faut que les militaires, avant de partir en zone, soient formés. Qu'on leur explique qu'est-ce que ça veut dire avoir recours à la prostitution de survie. Aller solliciter des femmes dans des camps de réfugiés, des femmes qui sont affamées, qui n'ont pas d'autre choix, etc. Ça veut dire ça. Donc il faut former les militaires et il faut sanctionner quand ceux-ci se rendent coupables. Vous parlez de l'ONU tout à l'heure. Moi, je pense que la question de l'ONU se pose, par exemple. Aujourd'hui, les casques bleus se sont rendus coupables de plusieurs dizaines, voire centaines de violences sexuelles en Haïti, au Congo,
dans le cadre des opérations de maintien de la paix.
Et malheureusement, ça a été signalé par plusieurs rapports officiels, etc. Aujourd'hui, les sanctions sont ridicules. Mmh. Et donc, du coup, on peut pas d'un côté faire des déclarations très fortes et puis de l'autre côté, quand il s'agit de faire tomber le marteau, il n'y a plus personne. Mmh. Et donc, du coup, je pense que la question de la formation et de la sanction, c'est les deux pieds qui nous permettront d'avancer, quoi.
C'est une bardesse, quelque chose
là-dessus. Ouais, non, mais moi, je pense, la formation, il y en a beaucoup. Je pense qu'il y a, en fait, il faut vraiment faire un accompagnement plus pragmatique que les formations actuelles qui existent. Ça, c'est mon opinion, parce que des formations, il y en a et on voit qu'elles ne marchent pas. Mais c'est aussi surtout, en fait, je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer. On parle beaucoup plus des violences sexuelles, on parle des choses. Et c'est comme beaucoup de choses, en fait, à un moment, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Et il faut qu'il y ait une prise de conscience sur le fait de comprendre que c'est un crime. Il faut séparer un tout petit peu le côté sexualité du viol. Le viol, c'est une prise de pouvoir, c'est pas une envie sexuelle, c'est pas, et c'est à travers ça et cette sensibilisation et cette éducation là, je pense qu'on va arriver. Il faut qu'il y ait une prise de conscience, et ça, c'est lent, on le sait tous, pour beaucoup de choses.
Est-ce qu'on n'est pas un petit peu, et je m'inclus dedans, en train de rêver là? Est-ce qu'il y a vraiment des forces armées où les troupes sont sensibilisées, formées, informées?
Après,
à cette question,
il y a pas que les forces armées.
Oui,
attention,
y a aussi
là, on
des,
parle
des,
beaucoup
des
militaires.
Oui, certaines ONG, c'est arrivé.
Et il y a aussi les ONG. Non, mais quand on parle du viol comme arme de guerre, déjà sur
enfin,
un terrain
de conflit,
ouais, mais en temps de conflit, il y a des militaires, il y a des milices, il y a aussi tous les problèmes. Daesh, c'est pas une unité militaire, et voilà. Donc on va pas aller former Daesh pour les prisonniers.
C'est pour ça que je suis en train de vous demander si c'est pas un petit peu utopique.
Je pense que la question de la prévention, je pose un énorme point d'interrogation. Mmh. J'y crois, en fait, en termes de sensibilisation et d'avancer sur la prise de conscience. Donc, pour ça, il faut marteler. Mmh. Et il faut qu'il y ait une justice aussi. Ce qui a très bien été dit, c'est que aussi, il faut qu'il y ait des sanctions. C'est quand même le crime qui est le moins sanctionné. Donc, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'on considère que le viol, c'est moins grave que d'autres choses. Mmh. Et il est là, le problème. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut qu'on avance. Et quand on aura avancé là-dessus, moi, je pense que les choses, elles changeront.
Mais à votre connaissance, Leila Mignano, il y a des endroits où ça se passe? Je sais pas, par exemple, quand on lutte contre la guérilla en Colombie, est-ce que l'armée colombienne est formée? Je sais pas. Très rapidement.
Non, mais je voulais réagir par rapport à ce que vous disiez. Moi, je pense que la phrase qu'on m'a le plus répondu depuis que je travaille sur le viol de guerre, c'est « Mais qu'est-ce que tu crois, en fait ? C'est des hommes en armes, de toute façon, ils ont toujours violé, de tout temps, et ça continuera, il n'y a aucun espoir. » En fait, c'est pas vrai, en fait. Il y a des guerres où on viole moins. Céline Bardet donnait l'exemple de l'armée israélo-palestinienne, c'est quelque chose, un conflit que je connais pas, etc., mais sans doute.
Ouais. Merci, Leila Mignano, merci, Céline Bardet, c'est déjà terminé, merci. À vous d'avoir participé.
Merci
à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Florence Ponce, Emmanuel Sevin et aujourd'hui Valentin Vaner. Prochain débat, demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.